Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline.
Antoine Robitaille. Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission avec l'indépendante Marie-Claude Nicoles, députée de Vaudreuil, accessoirement avocate en droit de la famille. On parle de la gestation pour autrui, du refus de la pluriparentalité. Toutes ces nouvelles notions, donc, qu'aborde le projet de loi 12 et pour lequel les consultations ont commencé aujourd'hui. Mais d'abord, on accueille en studio un député spécialiste des transports.
Antoine Robitaille, le véritable troisième lien. Du Salon Bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
Qu'est-ce qui se passe avec le projet de troisième lien du gouvernement Legault? Tout le monde se pose la question actuellement, puis on va parler à un de ses promoteurs principaux. Non, c'est une blague. Étienne Grandmont, député de Taschereau, porte-parole en matière de transport, entre autres, et d'affaires municipales. Donc, c'est ça, vous avez toujours été contre ce projet-là.
On promeut l'opposition.
Est-ce qu'il est en train de mourir, ce projet-là?
Ah ben, j'espère qu'il est en train de mourir. J'espère que le gouvernement est en train de se rendre compte qu'il est en train de creuser son propre trou. Il n'est pas juste creusé sous le fleuve, là. Il est en train de creuser son propre trou. C'est un mauvais projet. Dès le départ, c'est vicié. On n'a jamais eu de démonstration qu'il y avait un réel besoin. On comprend qu'il y a des gens qui le veulent, là, mais des gens qui l'utiliseraient s'il s'ouvrait demain matin, là, sans compter sur l'étalement urbain qui est appréhendé, associé à une nouvelle infrastructure de transport. Donc, il n'y a jamais eu une évaluation des besoins. Puis, évidemment, aussi, on n'a jamais évaluer c'est quoi les opportunités qu'on a, c'est quoi le type de projet qui pourrait répondre à ça. La CAQ a tout le temps mis ça de côté, elle s'est entêtée, c'est un projet très idéologique pour la CAQ.
Les études sur la qualité de l'air à Québec, est-ce que c'est ça qui est en train de plomber finalement ce projet-là? Parce que ça serait assez polluant comme projet, un troisième lien.
C'est clair.
Puis
c'est même des
autos électriques.
C'est un des éléments qui, d'après moi, commence à poser problème, même pour la CAQ. Là. Effectivement, quand la direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale sort, quand le directeur sort puis dit on remarque que pour la basse ville de Québec, puis même la haute ville de Québec, on a des enjeux de particules fines. Puis je le rappelle au bénéfice des auditeurs, mais ces particules fines-là sont rendues tellement fines qu'elles s'en vont jusque très profondément dans le cerveau, dans les poumons. Il y a des liens avec des maladies importantes là, liées à ça. Là. Donc, quand le directeur sort puis dit « on a un problème » puis que le principal coupable sur l'émission de particules fines, c'est le transport, puis que le troisième lien, on sait très bien que ça va générer encore plus de transport, on a un problème. Puis, comme vous l'avez dit, contrairement à ce que la ministre Guilbeault avait dit en chambre, les voitures électriques risquent de produire davantage de particules fines parce qu'elles sont plus lourdes. Des batteries, là, c'est du stock. C'est vraiment lourd. C'est plus lourd qu'une voiture traditionnelle. En ayant des voitures plus lourdes, on a des pneus plus larges aussi pour moins endommager la chaussée, je comprends. Et donc, ça aussi, ça génère davantage de poussière. Donc, c'est encore plus de pollution potentiellement pour les gens. Ça, c'est le premier argument. Je pense que c'est en train de faire réaliser à bien du monde que ce projet-là n'est pas bon. Mais il y a l'inflation aussi, la surchauffe actuellement.
Ah oui.
Le pont des Lautourtes, on a vu comment ça a explosé les coûts. Le tunnel Hippolyte, le Louis-Hippolyte Lafontaine à Montréal, ça aussi, ça a explosé de façon incroyable. 150% d'augmentation des coûts là, pour le tunnel à Montréal.
Mm-hmm.
150% de 6,5 milliards, là, on est rendu dépasser la première estimation qu'on avait eue à 10 milliards. Ça aussi, c'est important. Donc,
ça serait beaucoup plus que 10 milliards, hein, un troisième lien, c'est sûr, autoroutier.
Bien, écoutez, le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, c'est la réfection d'un tunnel existant, puis il fait 2 kilomètres. Là, on parle de creuser un nouveau tunnel dans une faille géologique où les enjeux techniques vont être nombreux, et ce tunnel-là va faire 9 kilomètres de long.
Ouais.
Je comprends pas comment on peut arriver à une estimation de 6,5 milliards de dollars de façon réaliste.
Faut être assez créatif.
faut avoir beaucoup d'espoir. J'ai entendu que l'espoir, c'était un choix. Je ne sais pas s'ils croient vraiment qu'ils peuvent atteindre ce chiffre-là, mais ça me semble complètement farfelu, là.
Mais qu'est-ce qu'on fait à la place? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire? Parce que Québec solidaire, à un moment donné, a dit avec Catherine Dorion, votre prédécesseur dans Tachereau, on est parlable pour un projet qui serait entièrement consacré au transport en commun. Après ça, c'est dédié, ça n'avait pas passé au caucus, on était... Là, on ne voulait plus du tout de projet sous-fluvial. Vous, maintenant, vous en êtes où?
Moi, je vois que d'autres villes dans le monde font des choix bien différents des nôtres. Amsterdam, Copenhague, s'est entouré d'eau. Ils ont pris l'habitude de maintenir leur service de traverse fluviale ou les traversiers, puis en faire des bons systèmes de transport en commun, parce que ça peut être ça. Québec est sur le bord de l'eau. On a deux traversiers, dont un est à peu près tout le temps prêté à l'île aux coudes. Là, même cette semaine, on a eu un moment où il n'y avait même plus de traversier. Des gens aujourd'hui même là, qui m'en ont parlé, qui se sont retrouvés au quai, paquette, puis pas pouvoir traverser. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de louer une communauté, faire le tour par le pont. Ça n'a aucun sens. On n'a pas de bonne politique de traversier au Québec. La STQ au Québec, la Société des traversiers
C'est une
Québec,
catastrophe.
C'est une catastrophe. Et la ministre responsable de la STQ, c'est Geneviève Guilbeault. Pour vrai, là, j'attends encore, je vais la talonner là-dessus prochainement, c'est clair, j'attends une vraie politique de développement et de maintien des actifs de nos traversiers au Québec. Ça, c'est vrai à Québec.
Il n'y a pas un chantier naval qui est toujours à la recherche de contrats.
Demandez à Pascal Bérubé qu'est-ce qu'il pense de la traverse Matane de son côté, puis plus loin encore. C'est hallucinant comme ça ne fonctionne pas bien. Et oui, effectivement, on en produit. Ça, c'est vrai comme pour tous les transports en commun. Le jour où on investit dans le transport en commun plutôt que dans l'industrie automobile, c'est 3 fois plus d'argent qui revient au Québec. On produit au Québec des tramways, des métros, des bus, des vélos et des traversiers.
Donc, la réponse, quelle est-elle pour Québec solidaire? Des traversiers seulement? L'idée de faire passer le tramway, mettons, en dessous du fleuve, est-ce que ça serait complètement fou?
Je pense que c'est le projet qui mériterait d'être étudié, mais il faudra encore faire la démonstration que ça vaut la peine.
C'est ça, vous n'êtes pas sûr encore.
Je dis qu'à court, il faut faire des études. Pour vrai, il faut prendre le projet depuis le début. Je l'ai dit, la CAQ n'a pas fait d'études de besoin. Constatons le besoin, voyons comment on veut développer Lévis dans ce secteur-là, comment ça peut effectivement aider des gens à se déplacer. Si le traversier est amplement suffisant pour l'instant, augmentons la traverse, augmentons la fiabilité du traversier. Si on pense qu'on veut développer, étudions d'autres scénarios, mais il faut toujours avoir un rapport coût-bénéfice. Nous autres, ce qu'on a proposé en campagne électorale, c'était le retour du SRB, qui permettrait de faire en sorte qu'à Lévis, les gens se déplacent de façon plus écologique. C'est beaucoup axé autour du transport automobile là, du côté de Lévis. Il y a juste 4 % des gens de là-bas qui prennent le transport en commun, ce qui est très, très faible. Puis aussi, prenons pour acquis que la ville de Lévis est de moins en moins juste une banlieue de Québec. C'est aussi une ville qui a sa propre dynamique de déplacement à l'intérieur de ses frontières. Mm-hmm. Donc, il y a un besoin de développer du transport en commun, même du côté de Lévis. Puis après ça, faire une bonne connexion, évidemment, avec le tramway, ça va de soi. Là. Mais pour ce qui est de l'Est, là, pour l'instant, il y a peu de besoins exprimés. Mais commençons donc par réparer, avoir des bons traversiers fiables, fréquents, peut-être plus rapides aussi. Là.
Oui, c'est ça. Le tramway, vous y avez travaillé, vous, sur le projet de tramway, vous le connaissez bien. Est-ce que vous êtes satisfait avec ce que vous avez vu dans le budget hier?
Ce que je vois, c'est que le projet est toujours en planification, à ma compréhension. Donc, on se réserve des sommes pour être capable d'avancer le projet prochainement. La ville n'a pas soulevé non plus. Là, je pense que dans son calendrier, les choses suivent son cours. Il y a des travaux préparatoires. Ils ont en masse d'argent pour être capable de continuer à avancer le projet. On a très, très hâte du côté de voir, dans le fond, du côté de la ville aussi, les appels d'offres. En fait, le dévoilement des enveloppes là, pour connaître effectivement le prix là, des différents soumissionnaires. Mais je suis content de voir que la ville, en tout cas, ne semble pas du tout alarmée de ce côté-là. Content de voir aussi que ce projet-là continue à avancer. Moi, c'est ce qui est important. Ce projet-là, il est bon. Il va répondre à des besoins de déplacement. On a fait la démonstration que c'était le bon projet pour la ville de Québec et qui, à terme aussi, va permettre à la fois de densifier la ville, mais de réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Pour revenir à la qualité de l'air à Québec, vous, comme député de Tachereau, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce qu'il ne faut pas travailler aussi sur les foyers d'ambiance puis le chauffage au bois?
C'est une bonne question. Effectivement, je pense qu'il y a... ça fait partie, c'est le deuxième, en fait, là, la deuxième source.
Oui, c'est incroyable.
De particules fines.
Tu sais, on penserait le porc, je sais pas, moi, les quelques usines qu'on a, mais non, c'est... C'est le chauffage au bois.
Oui, mais il ne faut pas non plus enlever la responsabilité colopore de respecter nos normes, nos lois. Oui. C'est pas parce que c'est un territoire fédéral qu'après ça, on peut faire ce qu'elle veut. Il y a déjà eu des tentatives aussi pour l'assujettir aux normes québécoises.
Ça n'a pas marché.
Ça n'a pas fonctionné.
Ça, c'est du fédéralisme, ça.
Oui, je suis assez d'accord avec vous.
Un fédéralisme dominateur.
Non, mais c'est ça. Ils sont chez nous, sont sur notre territoire, sont dans un terrain dit fédéral. La pollution s'en va en territoire québécois, puis ils n'ont pas à suivre les normes québécoises. Il y a quelque chose qui, pour vrai, là, m'épate complètement. Comment on peut, par contorsion mentale, arriver à trouver que ce raisonnement-là a du sens?
Puis les foyers, les fours à bois, le chauffage au bois?
Bien, c'est sûr que c'est une source d'émissions importante de particules fines.
Qu'est-ce qu'on peut faire?
Les villes sont en train de réfléchir à avoir des mesures de contrôle, évidemment. On voit la ville de Montréal, je sais que la ville de Québec y réfléchit aussi. Mais à un moment donné, si on veut se donner des environnements sains, il va falloir, évidemment, trouver des solutions pour qu'on n'ait plus de ces sources-là. Est-ce qu'il y a des technologies qui font en sorte que les gens vont pouvoir continuer à avoir un foyer au bois, avoir de l'ambiance? Là, après ça, je laisse les villes légiférer.
Faites-vous ça, vous, des feux chez vous, Étienne?
À l'occasion, pas chez moi tant que ça, mais je suis un amateur de camping, évidemment, donc j'en fais plus en mode plein air.
C'est plein de particules fines.
Oui, mais on est plus dans un environnement extérieur, on est loin des... Tu sais, c'est la concentration, hein, c'est la quantité, puis le moment aussi. Le smog apparaît davantage en période hivernale, il y a une concentration, le plafond atmosphérique est bas, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment... C'est comme les automobiles, en fait. Tu sais, l'automobile, quand on est juste une personne à l'utiliser,
oui, oui.
Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que
tout le monde... Je vous ai déjà entendu dire, il y a trop de monde qui savent que c'est pratique.
Oui, exactement. Tout le monde a la même bonne idée en même temps. À un moment donné, ça devient un problème, une bonne idée des fois aussi. Là.
Parlons logement maintenant dans le budget. Ça a soulevé beaucoup d'insatisfaction dans les villes. Qu'est-ce qu'il aurait fallu donner pour le logement aux villes?
Bien, il aurait fallu donner des réponses parce que les villes sont toutes prises avec l'enjeu du logement. On a des enjeux d'itinérance, on a des enjeux de crise du logement qui est extrêmement importante. Les loyers explosent. Il y a un taux d'inoccupation qui est particulièrement bas, surtout pour les grands logements, les logements familiaux au centre-ville particulièrement, mais même plus loin. Dans la banlieue, c'est vraiment compliqué. Il y a vraiment une grande difficulté que les gens vivent à pouvoir accéder à un logement qui soit décent, qui soit à prix raisonnable. La solution pour nous, c'est d'offrir du logement social, en développer sous toutes sortes de formes, des fois du logement social subventionné, des fois du logement plus abordable, coopératif, du logement qui va permettre aussi des fois de répondre à des besoins plus spécifiques. Il y avait dans l'ancien programme Accès Logis des volets de financement qui étaient réservés pour des clientèles, des personnes avec des enjeux de santé mentale, par exemple, des enjeux des femmes victimes de violences conjugales, par exemple. Bon, il y avait tout ça dans ces programmes-là. Et les besoins sont grands. La Ville de Québec demandait 500 logements sociaux, du financement pour 500 logements sociaux par année.
Oui.
Là, on a obtenu 1500 pour l'ensemble du Québec.
C'est ça.
Ce qui est nettement insuffisant. Et en plus...
Est-ce qu'il faudrait prendre les 15 millions des pistes cyclables que Québec a obtenu puis le mettre sur le logement?
Je pense pas qu'il faut déshabiller une bonne idée pour en rhabiller une autre, là, paraphraser un peu la vieille expression. Non, mais je veux dire, on a choisi de faire des baisses d'impôts. On a choisi de faire des baisses d'impôts qui, malheureusement, pour bien du monde, ne sera pas utile tant que ça. Et beaucoup d'argent là-dedans qui aurait pu être mis dans le logement social. Et ça, dans le logement abordable et social, je pense que ça aurait été une meilleure idée pour aider plus spécifiquement les personnes qui en ont réellement besoin. Là.
Est-ce que vous proposez encore votre idée là, de campagne électorale d'acheter carrément des maisons et de les louer ou de les revendre ou d'intervenir finalement dans le marché?
Cette mesure-là, à ma connaissance, elle est en évaluation pour savoir comment on pourrait la revamper, l'expliquer. Je sais que c'était une mesure qui était relativement compliquée à expliquer.
Ben oui, ça prend plus d'idées compliquées, là, dit Gabriel Nadeau-Dubois.
C'est pas des idées simples que ça prend. Puis je pense que Gabriel, ce qu'il veut bien dire, c'est que c'est pas que ça prend des idées simples, mais ça prend des idées qui s'expliquent facilement, qui s'expliquent simplement.
Okay.
Et là, dans le cas de ce programme-là, on avait quelque chose qui était peut-être plus compliqué et donc qui prêtait flanc aussi à la critique. Donc,
ça s'inspirait du Vermont? Ça s'inspirait de notre...
Oui, c'est des choses qui existent. On n'avait rien inventé à ce niveau-là. Après ça, il faut trouver la bonne façon de le
vous
vendre.
Vous êtes plus sûr, alors? Vous êtes plus sûr?
Ben, l'idée est toujours bonne. Je pense que c'est intéressant. Après ça, c'est la façon de le rendre public, de le vendre à la population en général.
Merci beaucoup, Étienne Grandmont.
Ça fait grand plaisir, toujours.
Député de Taschereau de Québec solidaire, porte-parole en matière de bien des affaires, dont le transport et les municipalités.
Antoine Robitaille. Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. À part vous.
Filiation, mère porteuse, parent d'intention, enfant né d'une agression sexuelle, le droit de la famille est en pleine redéfinition actuellement avec le projet de loi 12 du gouvernement. Pour parler de ça et d'autres sujets en studio, il y a une élue indépendante qui est juriste, avocate en droit de la famille et qui étudie actuellement le projet de loi. C'est Marie-Claude Nicosse. Bonjour.
Bonjour.
Donc, députée indépendante, comme je l'ai dit, commençons par le droit de la famille. Permettre donc à une mère victime de viol de refuser la paternité de son enfant à l'agresseur, semble ça va de soi, ça? C'est un aspect du projet de loi qui va pas mal de soi.
Oui, c'est un aspect du projet de loi qui est important, qui va de soi. Puis même, si je ne me trompe pas, il y a un groupe qui est passé un peu plus tôt aujourd'hui parce qu'on commençait les consultations particulières aujourd'hui.
Ça.
Puis il y a un groupe qui l'appelle même la loi Océane. En référence à l'enfant qui est né suite à un viol. Mais c'est complexe, hein, parce que souvent c'est la mère qui est la victime parce qu'elle est la victime d'un viol, puis là il y a un enfant qui arrive, mais cet enfant-là a des droits aussi, là. Il y a la filiation, fait que c'est très 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 complexe. Le droit de la famille, c'est un droit évolutif, c'est un droit humain, c'est un droit très émotif. J'espère que mon expertise pourra servir, mais je le cacherai pas, ça va vite. Ça va vraiment vite. Là, on a entendu des notaires, des avocats, Maître Sylvie Schirm, qui est vraiment une experte. Le ministre est accompagné par Maître Roy, un notaire qui a déjà écrit beaucoup sur le sujet.
Alain Roy,
oui. Oui, Alain Roy. Donc, ça roule.
Il est prof à l'Université de Montréal. Et donc, oui, ça roule. Donc, vous qui avez pratiqué en droit de la famille, qu'est-ce que ça vous fait, par exemple, la question des mères porteuses? Il me semble que, moi, j'ai étudié brièvement en droit, puis je me souviens que dans le Code civil, c'était écrit « Le contrat de mère porteuse est nul et non avenu ». Il peut pas avoir un bon contrat de mère porteuse, il est interdit au Québec.
C'est ça, je dis, le droit de la famille est évolutif.
Oui.
Ça a beaucoup changé. Ma grand-mère croirait pas à ça où on est rendu aujourd'hui en 2023. Ça. Mais je pense que c'est un droit, c'est là, il faut l'encadrer. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut encadrer. On veut pas aller dans la pluriparentalité, ça c'est ce que j'ai compris du ministre, il voulait pas aller jusque-là. Puis les avocats aussi qui sont venus donner des avis, là, c'était pas mal complexe. Faut toujours garder en tête l'intérêt de l'enfant.
Serait la pluriparentalité? Rappelez-le-nous pour les auditeurs.
Je vais essayer de simplifier. Là, j'ai peut-être pas les bons mots parce qu'il y a vraiment un vocabulaire particulier, mais il y a une maman, des parents qui signent un contrat, puis là, on se trouverait, par exemple, avec trois parents, ou on pourrait rajouter un autre parent sur le contrat, fait qu'il y aurait quatre parents. C'est déjà compliqué des fois juste d'avoir, juste de définir des droits de garde, puis définir, en fait, des fois, définir les droits de garde, c'est facile. Ce qui est le plus difficile, c'est par rapport aux décisions à l'enfant. Prendre des décisions par rapport à l'enfant, souvent quand un couple se sépare, c'est déjà compliqué quelle école il va aller, quel sport il va pratiquer. Fait que là, si on embarque quatre parents là-dedans. Mais je sais que le ministre n'a pas l'intention d'aller là.
Mais il s'est fait taxer, là, d'étroitesse d'esprit. J'ai lu ça dans Le Devoir parce qu'il refusait cette pluriparentalité.
Bien, moi, je dis peut-être qu'on y arrivera, mais étape par étape. Moi, je n'ai pas participé au projet de loi 2, mais il y a eu le projet
de loi. Ça, c'est le projet de loi précédent qui changeait une partie du droit de la famille.
Ouais. Exactement. Puis là,
quelle partie déjà, rappelez-nous?
Moi, je n'ai pas siégé au projet de loi 2. Okay.
Mais là, on est vraiment dans les questions de filiation puis de.
Oui, dans les questions. Puis même, on était dans les questions de disposition testamentaire. On est dans les dispositions d'indemnité. Est-ce que l'enfant, un jour, si sa mère lui dit qu'il est né suite à un viol, est-ce qu'il pourrait avoir une indemnité? Puis on le compare à une pension alimentaire. Là, fait qu'est-ce qu'on pourrait déterminer des tableaux, c'est vraiment très, très, très complexe. Puis il faut toujours légiférer en gardant en tête l'intérêt de l'enfant, puis en plus, on a les victimes dans tout
ça.
Fait que c'est pour ça que je dis que c'est très émotif. Puis même dans les cas qu'on raconte ou qu'on échange de part et d'autre, il faut faire attention parce qu'il y a des cas qui sont réels.
Est-ce qu'il y a des choses dans le projet de loi que vous rejetez, là, que vous préfériez pas voir, ou est-ce que vous l'acceptez en grande partie?
En grande partie, j'accepte le projet de loi. Je pense, par exemple, qu'il va falloir mieux venir définir certains aspects. Moi, j'ai une partie qui m'embête énormément, puis on l'a vu, on le voit, on lit à l'international dans certains articles. Il existe des catalogues. Fait qu'un couple qui veut avoir un enfant, puis je l'invente pas, là.
Oui.
Ils disent, ben, va voir au Québec ou va voir au Canada, c'est super facile, c'est pas légiféré, ça te coûte pas
cher. C'est un catalogue de quoi?
Un catalogue de mères porteuses.
Ah oui.
Oui, c'est ça. C'est terrible. C'est vraiment terrible d'entendre ça, mais ça existe.
Oui.
Fait que ça me perturbe. Puis ça, ben, c'est pour ça, je me dis, il va falloir encadrer pour que le moins possible.
Quel encadrement faudrait y avoir, faudrait donner à ça, selon vous?
Bien, je pense que ça va être souvent par des contrats, tu sais, des contrats notariés. Est-ce qu'on va notarier le consentement ou pas? Les actes authentiques. Comme je donne, on dit le GPA, est-ce que...
Oui, la gestation pour autrui.
Oui, la gestation pour autrui. On a beaucoup d'acronymes, ce sont tous nouveaux pour moi d'ailleurs. Oui. Mais est-ce que, les parents étrangers, ils doivent avoir leur domicile au Québec depuis un an. Mais avoir un domicile au Québec, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est quelqu'un qui peut se prendre une adresse, est-ce que ça veut dire qu'il va résider là pendant un an? Il y a toujours des...
Donc, les parents étrangers, c'est ceux qui embauchent une mère porteuse?
Oui.
Les parents d'intention aussi?
C'est les parents d'intention. Les parents d'intention étrangers.
OK.
Donc, eux doivent avoir un domicile au Québec pendant au moins un an pour pouvoir faire affaire. Hein? C'est ça. Mm-hmm. C'est à la limite.
Mais oui.
C'est un contrat.
Mais donc, c'est un contrat.
C'est un contrat gré à gré.
Mais là, le Code civil va être changé. Je parlais de mon souvenir tout à l'heure du contrat de mère porteuse nulle et non advenue. Ouais. Ça va être changé.
Ah oui, le Code civil.
Donc, ça va être permis, les contrats.
Du Code civil, là, on rentre même dans le droit successoral.
Ah oui, c'est ça.
Les dispositions testamentaires.
Puis, est-ce que la rémunération va être permise?
La rémunération n'est pas permise.
OK. Donc, on peut rembourser des dépenses, d'après ce que j'ai compris.
On peut rembourser des dépenses, mais la rémunération n'est pas permise.
OK. Pourquoi, d'ailleurs?
Bien, j'imagine que c'est parce qu'on ne serait pas capable de l'encadrer ou... même encore là, je trouve ça délicat de dire combien ça vaut la vie d'un enfant. Là. Puis, est-ce qu'il y a des parents plus riches ou des parents moins riches? Moi, je pense que ça va trop loin si on se rend jusque-là.
Donc, vous l'acceptez quand même, la gestation pour autrui, comme éthiquement, là, comme élu?
Oui, il a fallu que... J'ai fait beaucoup de lectures sur le sujet parce que c'était pas... je suis pas super familière.
Ouais.
Mais oui, je pense qu'on est rendu là. Puis tant qu'à voir que ça se passe dans l'illégalité, que ça se passe, ben on est peut-être venu justement de venir l'encadrer.
De l'encadrer. Il vous reste combien de jours de consultation?
C'est parce qu'on n'est pas en continu. Okay. Comme on a commencé aujourd'hui, on n'en a pas demain, on en a la semaine prochaine, mais on en a encore pour, je pense, 2 semaines là, dans les consultations particulières.
Parlons de politique maintenant. C'est Henri Sainte-Anne, votre ancien parti, le Parti libéral, en a mangé toute une. Est-ce que le Parti libéral a mérité sa défaite dans Saint-Henri Sainte-Anne, dans l'élection partielle?
Bon, ça, c'est des sujets très délicats, là, puis évidemment...
Parce qu'il faut dire aux auditeurs que Marie-Claude Nicoz ne met pas un X sur le Parti libéral. Vous pouvez peut-être y retourner. Vous voudriez peut-être y retourner un jour.
Bien sûr. Je garde ma carte du Parti libéral. C'est pour ça que je dis que c'est très délicat.
Malgré la défaite cinglante, parce que là, ça a l'air difficile, même dans des comtés où il y a beaucoup de francophones.
Oui, je dois être franche, là. Puis je pense que tout le monde le voit, les journalistes le voient, puis je pense que même, là, ils ont travaillé fort. Le Parti libéral a travaillé fort dans Saint-Henri-Sainte-Anne, mais je pense qu'il y a une leçon à retenir de tout ça.
Mais oui.
C'est que je parle encore à nous, hein, comment? Je m'inclus.
Mais
encore,
oui, vous êtes dans le nous encore.
Ben oui, nos gens sont pas sortis, les gens sont pas sortis voter. Je pense que nos électeurs sont encore fâchés contre le Parti libéral. On a un travail de fond à faire. Le Parti libéral a un travail de fond à faire. Bon, malheureusement, je ne serai pas là pour y participer.
Non.
Mais ça me
commencerait par quoi?
Mais je pense qu'on méritait, on la méritait pas, cette victoire-là. Là.
Non.
Puis je pense que ça a été le c'est plate à dire, là, mais je pense que ça a été le petit coup qui va nous donner le
un aiguillon.
Oui, l'aiguillon qui va... OK, là, il faut s'asseoir, il faut regarder tout ça, il faut rebâtir tout ça, il faut revoir nos valeurs. On n'est pas nécessairement à la bonne place. Fait que je pense que... pense que c'était significatif, cette défaite-là dans Saint-Henri-Saint-Anne.
La dernière fois que vous êtes venu à mon micro, c'était le 16 février. Vous prédisiez qu'il y aurait quatre. Vous avez même parié.
Oui.
On n'a pas déterminé quoi encore. Si c'est du vin ou si c'est autre chose. Mais il y aurait quatre indépendants d'ici la fin de l'actuelle législature. Là. Vous êtes rendu deux depuis.
Hey, ça s'en vient. Hein?
Ça avance vite.
Ça fait pas longtemps qu'est commencé là, la quatrième législature.
Vous maintenez votre quatre, Marie-Claude?
Je maintiens mon quatre, peut-être même quatre et plus. Mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Hein,
Parce qu'il faut rappeler que Marie-Louise Tardif. Donc députée de Masquinongé, si
non,
je m'abuse.
La Violette.
Et maintenant indépendante,
oui,
mais peut-être temporairement.
Oui, ma nouvelle voisine au Salon Bleu, à la banquette du bonheur.
Oui. Est-ce qu'elle vous a piqué une question? Non.
Non, pas encore.
Non, okay.
non, mais ça aussi, c'est particulier, hein, les ententes prises en
partage de temps.
Oui, partage de temps. Étant donné qu'elle était dans la CAQ au parti gouvernemental, ben son temps va être quand même sur une partie de l'opposition officielle. Comme moi, je suis sur du temps de l'opposition officielle parce que j'étais dans.
Donc, elle va voler du temps d'une certaine façon aux libéraux.
Oui.
Ah,
c'est,
OK.
C'est prévu comme ça.
Eh bien.
Elle peut quand même pas prendre une question. Elle peut quand même pas prendre une réponse au gouvernement.
Exactement. Ben. Juste peut-être une dernière question sur le pont de l'île aux Tourtes. Vous êtes intervenu en chambre ce matin. C'était votre question. C'est une infrastructure clé là, pour l'Ouest, la grande région de Montréal. C'est certain, le pont de l'île aux Tourtes, mais il tombe en morceaux. Et actuellement, il est en réparation et il y a de la congestion monstre parce qu'il y a des voies réservées au transport en commun, mais vous disiez, il n'y en a pas de transport, il n'y a pas d'autobus qui passe. C'est ça le problème?
Bien, deux choses.
Ouais.
Ce que j'essaie de dire à la ministre, parce que j'ai posé une question le 22 février dernier, puis ce que je disais à la ministre, parce qu'elle avait fait des voies réservées pour les autobus,
ouais.
Puis les élus municipaux lui avaient dit, ça ne sert à rien, on n'en a pas d'autobus. On n'a pas d'autobus, fait qu'ils ne réservaient pas des voies pour les autobus. Il n'y en a pas.
Oui.
Là, elle les a rajoutées pour le taxi puis pour le covoiturage.
Bon. Ah.
Mais le temps qu'elle les a réservées, puis même encore, là, le fait que ça soit réservé, il n'y a pas de circulation automobile dans cette voie-là, puis c'est dans chaque direction. C'est de la congestion monstre, matin, midi, soir, 7 jours semaine. Là. Le dimanche aussi, dimanche midi, ça peut être congestionné. Là. Fait que c'est terrible. Puis nous, on est enclavés. On est, c'est notre seule sortie. De Vaudreuil-Dorion, du comté de Vaudreuil et du comté de Soulanges, c'est 87 000 véhicules par jour qui passent sur le pont des Lotoutes, autant que le pont Jean-Cartier. Puis,
et beaucoup plus que les deux ponts à Québec.
Oui, certainement.
Oui.
Certainement. Oui, il faudrait pas le comparer au pont de Québec.
Oui.
Fait, c'est
donc,
ça.
Il est là le troisième lien, c'est là qu'il faut le construire.
C'est là qu'il faut le faire, le troisième lien. Mes citoyens me le disent fréquemment. Mais deux, moi, la question aujourd'hui, puis elle répondait pas à ma question, puis ma deuxième complémentaire.
C'était Geneviève Guilbeault, la ministre.
Oui, la ministre, avec son ton sympathique, ce qu'elle me disait, c'est que, parce que ils ont fait le tracé du nouveau pont de l'île aux Tourtes, parce que ce pont-là, et vétuste.
Oui.
C'est un pont qui a été construit en même temps que le pont Champlain. C'est un pont là, qui...
Même genre de béton friable.
Exactement. Okay. Exactement, avec de l'armature qui passe dans le bloc par bloc. Là.
Oui.
Puis il y a de l'entretien en permanence sous le pont depuis 2015.
Ah,
ça coûte une fortune. Le nouveau pont va coûter plus de 2 milliards de dollars.
Hey.
Mais ça va être une nouvelle infrastructure au nord du pont qui est là présentement. La problématique, c'est le tracé. Il y a eu un tracé qui a été fait, la CAQ est arrivée au pouvoir et ils ont changé le tracé. Et dans leur nouveau tracé, ils ont enlevé les voies de transport en commun qui passaient dans le milieu du pont.
Ah, mais tantôt, vous nous disiez qu'il n'y avait pas d'autobus qui passait par là?
Mais là, c'est parce qu'on a le REM qui s'en vient.
Ah,
et le REM est juste de l'autre côté du pont. Donc, ce que je disais dans ma question, c'est que nos élus municipaux travaillent à faire du, puis là, je vais utiliser rabattage, là, mais c'est à mettre des autobus express pour s'en aller au REM.
Mais oui.
Que c'est pas... Moi, ce que je demande à la ministre, c'est d'avoir une vision pour le pont de l'île aux Tourtes. On va construire une infrastructure de 2 milliards de dollars. Puis
Sans transport en commun.
Même si on n'en a pas présentement, il va en avoir du transport en commun.
C'est une autre preuve que le parti au pouvoir est peut-être pas très sensible au transport en commun. Hier, dans le budget, il y avait beaucoup d'argent pour les routes. Puis,
je pense que dans le budget, j'ai vu 400 millions pour le transport en commun.
Oui.
Puis je sais que la ministre commence une tournée. J'espère qu'elle va s'arrêter dans Vaudreuil-Soulanges parce qu'ils vont lui dire, ils vont lui rappeler la nécessité du transport en commun sur le nouveau pont. De toute façon, là, on veut réduire les GES, on pense à l'environnement, on met l'accent sur le, justement sur le transport en commun, puis on fait un tracé. Parce que ce qu'elle me disait, ce qu'elle me répondait ce matin, c'est qu'ils vont pouvoir passer les autobus sur le pont, il n'y en a pas de problème. Ben oui, ça, je le sais que les autobus vont pouvoir passer sur le pont. Mais ce qu'elle me dit, c'est que c'est les accotements, elle va les réserver pour les autobus.
Ah oui.
Mais quand il y a une voiture qui va tomber en panne sèche ou... ça serait pas plus drôle, là. C'est pour ça. Je trouve juste qu'il y a, je trouve qu'il y a vraiment...
C'est une bonne question.
Oui, il y a vraiment un manque de vision, là, à
ben, ce fait-là. Merci beaucoup, Marie-Claude Nicoz.
Ça fait plaisir.
Une des deux députées indépendantes.
Mais ben oui, j'ai perdu mon statut.
Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage et il y a aussi le bouche à oreille. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.